L'attitude des Français vis-à-vis de la nature serait très différente de celle de nos voisins allemands ou anglais. Elle se traduirait par une désaffection et une difficulté à mobiliser nos concitoyens sur la sauvegarde de la faune et de la flore. Comment expliquer ce qui ressemble à une exception française et comment retisser notre lien à la nature alors que paradoxalement on n'a jamais autant entendu parler d'environnement? C'est la discussion que nous allons avoir dans un instant avec mes invités et vos messages, toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, une première mondiale qui a permis de stimuler les mouvements d'un primate.
Oui Mathieu, les chercheurs sont parvenus à déclencher artificiellement l'envie de faire des mouvements chez des macaques. Et on vous raconte l'expérience avec le neurobiologiste Karim Benchenan.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne avec un nouveau pavé dans la mare du dépistage du cancer du sein. Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les Français ont-ils perdu le lien avec la nature? Dossier dans quelques instants avec mes invités, l'historienne Valérie Chansigaud et la juriste Valérie Cabanès. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue Valérie Chansigaud. Les Français s'intéressent donc si peu à la nature?
Oui. Vous vouliez une réponse courte.
Elle est très très courte. Vous avez 10 secondes de plus pour nous répondre.
Simplement, il faut bien comprendre les éléments de comparaison parce qu'il s'agit de comparer des éléments semblables. Mm-hmm. Et si on regarde l'intérêt historique des Français pour la nature par rapport à leurs voisins germanophones ou anglophones, effectivement, il y a une très forte différence.
Valérie Cabanès, comment rétablir ce lien entre nous et la nature? Alors, il y a beaucoup d'idées, hein, évidemment. S'il fallait en retenir une, là, déjà, pour présenter le sujet.
En s'y reconnectant. Je crois que c'est déjà une première chose. Et puis en réaffirmant notre lien d'interdépendance avec les autres éléments de la nature et l'inscrire finalement dans nos règles de vivre ensemble.
Mmh. Se réintégrer dans ce monde vivant auquel nous appartenons, hein, mais qu'on oublie beaucoup finalement.
Manifestement, hein. Oui, mmh. Nous l'avons oublié.
Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour en discuter avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent donc tout de suite sur le site de La Tête au Carré. Stimuler l'envie de faire un mouvement directement dans le cerveau, c'est une première chez le singe. Aujourd'hui, à la une de la science, toujours plus loin, donc dans la compréhension du cerveau des chercheurs de l'Université américaine de Rochester, publient aujourd'hui cette drôle d'expérience. Après une période d'apprentissage, ils sont parvenus à déclencher artificiellement l'envie de faire certains mouvements à l'aide de petites électrodes placées dans le cerveau du macaque rhésus. On discute de ce travail qui paraît dans la revue Neurones avec notre invité Axel.
Oui, nous sommes au téléphone avec Karim Benchenan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS, neurobiologiste à l'ESPCI, l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Alors, la publication s'intitule « Injecter des instructions dans le cortex prémoteur ». Qu'est-ce que ça veut dire « injecter des instructions » ? Ça fait presque, je dirais, peur.
En fait, c'est un peu souvent le cas en science. Ce qu'on veut dire par « injecter des instructions », scientifiquement, n'est pas la même chose que ce que le commun des mortels entend quand on prononce les mêmes mots. En fait, ce qui a été montré dans cette étude, c'est que des stimulations directement dans le cortex du primate pouvaient être utilisées, donc étaient perçues par le primate pour réaliser, pour résoudre la tâche qu'on lui demandait de réaliser. Donc c'est pas des instructions dans le sens où on n'arrive pas à comprendre le code implanté dans le cerveau, la façon dont on parle le cerveau, mais on s'est injecté des stimulus qui sont perçus consciemment pour réaliser une tâche. Mmh.
Expliquez-nous un petit peu l'expérience alors en détail.
L'expérience est la suite de résultats qui avaient été obtenus notamment par Angela Sirigu à Lyon, où cette fois chez l'homme, ils avaient réussi à stimuler dans certaines parties du cerveau et en fait ils pouvaient effectivement déclencher des intentions de faire des mouvements. Et on le sait parce que c'était fait chez l'homme et que les sujets déclaraient avoir l'intention de bouger la main alors que la main ne bougeait pas. Et il y avait d'autres stimulations, notamment dans le cortex prémoteur, qui est la région dans laquelle les chercheurs de Rochester ont stimulé, où en fait la stimulation chez l'homme déclenchait des mouvements, mais le sujet n'était pas conscient d'avoir bougé. C'est-à-dire qu'on voyait, on faisait la stimulation, la main bougeait, et si on demandait au sujet, il disait « non, ma main n'a pas bougé ». Et donc ça a posé des grosses questions par rapport aux intentions, par rapport à la volonté de faire des mouvements. Et la grosse question, c'est est-ce que dans le prémoteur, on est conscient du mouvement ou pas ? D'où la question de la poser chez l'animal où on a beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on fait. Et la question, c'est comment détecter les intentions chez l'animal ou comment savoir si l'animal perçoit une stimulation électrique dans son cerveau.
Mais finalement, quel est le bon terme à utiliser ? Est-ce qu'ils ont stimulé l'envie, l'intention, le besoin de faire un mouvement ? On sait quoi répondre à cette question ?
Alors, on ne sait pas parce qu'on n'a pas accès à l'univers des représentations de l'animal ou des intentions. Ce que les auteurs ont fait, c'est ils ont fait une tâche où, pour simplifier un peu, pour que ce soit plus simple, on a un écran. Et quand il y a une lumière en haut à droite, on doit tirer sur un levier rouge. Et s'il y a une lumière en haut à gauche, on doit tirer sur une corde à droite. Mmh. D'accord ? Mmh. Et en même temps qu'ils allumaient les lumières à droite ou à gauche, donc si le singe faisait la bonne tâche, il avait une récompense. Et en même temps, ils ont commencé à faire des stimulations dans le cortex prémoteur. Donc à chaque fois qu'il y avait la lumière rouge, il y avait une stimulation à un endroit du cortex prémoteur. Et puis à chaque fois qu'il y avait la lumière de l'autre côté, il y avait une stimulation à un autre endroit. Et puis petit à petit, ils ont diminué la lumière sur l'écran. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière du tout. Et que la seule chose que le singe recevait, c'était la stimulation dans le cortex. Et en fait, le singe continuait à faire la tâche exactement de la même façon. C'est-à-dire que le singe était capable de percevoir la stimulation dans son cortex. Et ça, ça a été très très important parce que jusqu'à présent, en fait, on savait dès les années 50 qu'on pouvait faire des stimulations dans le cortex et ça pouvait être perçu par des sujets humains. Ça avait été fait dans les années 50 par Penfield à McGill au Canada. Et en fait, c'est comme ça qu'on avait fait des cartes du cerveau où on savait qu'il y avait des parties du cerveau qui faisaient du sensoriel, c'est-à-dire que si on stimulait dans cette partie du cerveau, ça nous donnait l'impression de sentir comme si on touchait quelque chose, et d'autres parties du cerveau qui agissaient comme un contrôle moteur, c'est-à-dire que si on faisait des stimulations à un endroit, on bougeait le doigt, si on stimulait juste à côté, on bougeait le bras, etc. Et en fait, on arrive à bien comprendre ce qui se passe pour tout ce qui est sensoriel, donc la perception, c'est-à-dire que des sujets ne sont pas capables de faire la différence entre une stimulation dans le cortex visuel, quasiment, et une stimulation visuelle réelle et une stimulation dans le cortex visuel. Mais par contre, on n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait en dehors de ces structures primaires, soit motrices, soit sensorielles. Et c'est ce qu'ont réalisé les auteurs de cette étude. Ils ont stimulé dans une structure prémotrice, donc où chez l'homme, encore une fois, les sujets sont capables soit d'avoir des intentions, enfin, de faire des mouvements sans les percevoir consciemment. Et là, en fait, ce qu'ils ont réalisé, c'est que le singe était capable de percevoir la stimulation dans ce cortex pour réaliser une action.
Alors ça, ces stimulations, Karim Benchenan, elles sont rendues possibles par les électrodes qui ont été posées dans le cerveau du macaque ?
Exactement. Exactement. C'est des stimulations intracorticales très précises.
Et c'est des stimulations qu'on pourrait faire facilement sur des humains, par exemple ?
Ah bah c'est déjà fait chez l'homme et ça a été fait chez l'homme encore une fois en 2009 par l'équipe d'Angela Sérigu. Et c'est elle qui a pu montrer que par exemple, on stimulait la place, le sujet faisait un mouvement mais il le sentait pas. Il disait non, j'ai pas bougé. Et ça par exemple, c'est très difficile à faire chez le singe parce qu'il peut pas répondre non, j'ai pas bougé. Mais avec le singe, là, ce qui a été montré, c'était la seule façon de résoudre correctement la tâche pour le singe, c'est de sentir la stimulation électrique. Et là, on peut montrer que, oui, il est capable de percevoir une stimulation électrique à différents endroits de ce cortex, ce qui fait qu'on peut utiliser ce cortex pour dialoguer avec le singe.
Est-ce qu'on peut déjà imaginer des applications de ce dialogue avec le cerveau ?
Bah, c'est déjà énormément de choses qui sont déjà réalisées pour, par exemple, restaurer les mouvements chez des patients complètement paralysés. Et en gros, c'est utilisé, donc on peut manipuler des bras robotisés en décodant l'activité dans le cortex moteur. Et puis on peut réinjecter la sensation. Par exemple, quand le bras robotisé touche la table, on va réinjecter cette sensation en stimulant dans le cortex sensoriel. Mais jusqu'à présent, en fait, ce qui était montré, c'est on utilisait soit le cortex moteur primaire, soit le cortex sensoriel primaire. Et si par exemple, il y a un sujet qui est paralysé en partie parce qu'il y a des traumas dans les structures, soit motrices primaires, soit sensorielles primaires. Jusqu'à présent, on disait, ben, on peut rien faire parce que dans le reste du cerveau, les sujets ne perçoivent pas consciemment l'activité dans le reste du cerveau. Or là, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont montré que même dans une autre partie du cerveau, le cortex moteur primaire, enfin le cortex prémoteur, pardon, les sujets, enfin les singes en l'occurrence, étaient capables de percevoir cette activité.
Est-ce qu'un jour on arrivera à injecter directement un savoir ou une mémoire dans un cerveau ?
Bah, en fait, c'est un peu tout le problème, où parfois, quand on n'est pas spécialiste du domaine, on a du mal à percevoir la complexité. C'est-à-dire qu'on est capable de décoder l'activité quand on bouge le bras, par exemple, et on est capable de faire contrôler un bras robotisé à un singe ou à un sujet humain. C'est quelque chose qu'on arrive déjà à faire. On peut rajouter une modalité sensorielle à un rat, par exemple, on a rajouté la vision en infrarouge à un rongeur. Et ça, techniquement, c'est pas très 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 difficile. C'est-à-dire que, ça devient technique, c'est un travail d'ingénieur, les choses, il y a énormément de recherche. Mais en gros, on arrive à stimuler des parties du cerveau. Et en fait, c'est le cerveau qui arrive à donner du sens à cette stimulation. Mais par contre, on n'arrive pas à comprendre comment le cerveau parle lui-même. C'est un peu comme si on a une personne qui parle anglais et une personne qui parle français, ils se comprennent pas, mais avec les mains, en fait, ils arrivent à trouver un langage commun. Donc ce qu'on arrive à bien faire, c'est trouver un langage commun qui peut être utilisé par l'ordinateur. Et
Karine Belchanan, s'il vous plaît, on arrive à la fin.
Voilà, donc on arrive à trouver un langage commun, mais on n'arrive pas à comprendre la langue du cerveau encore.
Merci beaucoup Karim Benchanan, neurobiologiste, autour de cette expérience qui a fait l'objet d'une publication donc dans la revue Neurones du groupe Cell. Merci beaucoup à vous et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, une avancée importante dans la lutte contre le virus Ebola. Une équipe d'épidémiologistes de l'Université de Californie a étudié les réponses immunitaires de 14 survivants d'une épidémie survenue il y a 40 ans dans un petit village de la République démocratique du Congo, âgé de 55 à 86 ans. Les victimes étaient toujours capables de produire des anticorps susceptibles de lutter contre trois différentes versions du virus. Quatre d'entre eux étaient même en mesure de neutraliser totalement le virus. Ces résultats apportent beaucoup d'espoir aux quelques 14 000 survivants des dernières épidémies entre 2013 et 2016. En Afrique de l'Ouest, qui ne connaissent pas encore les effets à long terme. Des manchots géants en Nouvelle-Zélande, des chercheurs ont retrouvé le squelette d'une nouvelle espèce de manchot préhistorique, beaucoup plus grande que ses cousins actuels, en se basant sur la taille de son fémur. Ils estiment qu'il mesurait 1m77, soit 50 cm de plus que les grands manchots empereurs, et qu'il devait peser environ 100 kg, vivant il y a plus de 55 millions d'années, juste après l'extinction des dinosaures. Les chercheurs essayent toujours de comprendre l'origine du rétrécissement des manchots. Ils remarquent que la disparition de cette nouvelle espèce coïncide avec l'essor des phoques et des baleines à dents. Et puis imaginez si vous pouviez lire à la lumière de votre ficus, une idée pas si farfelue pour les chercheurs du MIT. En injectant à l'aide de nanoparticules trois composés chimiques dans les feuilles de plantes qui sont utilisées dans le mécanisme de bioluminescence des lucioles, ils sont parvenus à faire briller du cresson pendant 3h30. La lumière émise par un plan de 10 cm est pour l'instant 1000 fois plus faible que celle nécessaire pour lire. Mais les chercheurs restent confiants et espèrent même pouvoir utiliser un jour des arbres comme lampadaires. Cette méthode peut être utilisée sur n'importe quelle plante et semble bien plus efficace. Vous pouvez retrouver une vidéo de cette expérience sur la page Facebook de l'émission.
J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie d'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi,
comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie d'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça. Je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi. Je peux très bien me
passer de toi.
Je vais, je peux très bien me
passer de toi.
Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat. Je peux très bien me
passer de toi.
Comme envie
pas assez de toi. C'était la Mano Negra.
La tête au carré sur France Inter.
Comment renforcer notre lien à la nature? Thème de l'émission cet après-midi pour comprendre pourquoi les Français semblent moins impliqués que leurs voisins sur cette question. Valérie Chansigaud, vous êtes historienne des sciences et de l'environnement et vous publiez chez Actes Sud Les Français et la nature. Pourquoi si peu d'amour? Et Valérie Cabanès, vous êtes juriste en droit international, spécialiste dans les droits de l'homme et porte-parole du mouvement citoyen End Ecocide on Earth, qu'on peut traduire par...
Arrêtons l'écocide planétaire.
Voilà, et vous publiez Homo Natura en harmonie avec le vivant aux éditions Bûcher-Chastel avec les auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Valérie Chansigaud, vous qui vous intéressez depuis longtemps aux relations complexes entre l'être humain et la nature, vous défendez la thèse selon laquelle donc les Français s'intéresseraient moins à la nature que leurs voisins allemands ou anglais. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Comment vous avez étudié la question exactement?
Oh, il y a plein de biais. En fait, c'est une question que j'ai toujours croisée. Et c'est le côté extrêmement régulier de l'émergence de cette question. Un jour, je me suis dit, il va falloir que je mette ça noir sur blanc.
Bon, comment on enquête alors?
Par l'accumulation d'une myriade de faits significatifs. Mm-hmm. Je vais en donner deux très rapidement pour comprendre de quoi il s'agit. La LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, aujourd'hui compte à environ 45 000 membres en France. Mm-hmm. C'est l'une des grosses structures de protection.
C'est pas mal, hein, 45 000 membres
c'est
quand même.
C'est tout à fait honorable. Mais son alter ego britannique... c'est plus +1,3 million membres.
Ouais.
Or, si on remonte dans le temps à la création de la LPO en 1912, on se rend compte qu'elle a été créée par quelques dizaines de personnes, alors qu'à la même époque, 1912, en Allemagne ou en Angleterre, c'est plus de 70 000 personnes, et aux États-Unis, plusieurs centaines de milliers de personnes.
Ouais.
Donc ça veut dire que cette différence quantitative est non seulement visible aujourd'hui, mais elle est visible tout le temps. Et c'est ça qui... En fait, ça forme, ça constitue un objet historique d'étude parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui se répète inlassablement au fil du temps.
Le second exemple, alors ?
Second exemple, parmi bien d'autres, c'est l'arrivée de la photographie animalière. La photographie animalière émerge en 1895, suite à la conjonction de progrès techniques. Pour la première fois, des ouvrages uniquement illustrés de photos prises dans la nature sont publiés. Mm-hmm. Ça devient tout de suite un phénomène de librairie en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, et pas du tout en France. Il y a un ou deux ouvrages traduits de l'anglais qui sont édités, mais ça s'arrête là. Et la grande différence entre les deux, c'est pas qu'il n'y a pas d'amoureux de la nature ou de photographes capables de faire des photographies, il n'y a pas de public.
Ouais.
Il n'y a pas un public suffisant pour acheter ces livres et pour s'y intéresser.
Pourtant, on a de très très bons naturalistes, vous le rappelez. On a effectivement des éditions scientifiques naturalistes très étoffées, avec une vraie richesse là-dedans. Et pourtant, effectivement, il y a cette différence entre les différents pays.
Il y a toujours une différence qui se situe sur deux niveaux, on va dire, encore une fois, dans une démarche comparative en histoire. C'est à la fois une faiblesse des effectifs et un décalage dans le temps.
Ouais.
Quand ce décalage ne conduit pas simplement à l'inexistence tout simplement des Français.
Un dernier mot, vous parlez justement des grandes figures, des icônes du naturalisme par exemple. Vous citez Rachel Carson, une des biologistes américaines les plus connues au monde, qui est toujours dans le classement des personnalités les plus connues sur la planète, qui est décédée d'ailleurs maintenant, en 62 le Printemps silencieux, et qui est absolument inconnue en France, enfin quasiment.
Quasiment inconnu, sauf de spécialistes ou de militants, alors que c'est une icône culturelle considérable aux États-Unis. Une cinquantaine de biographies lui ont été consacrées dans ce pays, imaginez. Enfin,
oui.
Y a aucun équivalent, ni de près ni de loin, en France. Et c'est une icône parce que c'est au-delà de son action contre les pesticides, c'est avant tout un auteur sur la nature. Mmh. Quelqu'un qui a cherché, sans trucage, je dirais, à parler simplement de la nature avec une langue absolument magnifique. Si on aime l'anglais, il faut lire du Rachel Carson.
Mmh.
Et ça a suscité un enthousiasme débordant.
Ouais. Alors Valérie Cabanès, pour discuter avec vous, on va d'abord écouter la voix de Pierre Rabhi, qui est alors là pour le coup justement une grande figure aussi de la défense de la nature en France. On l'écoute et puis ensuite on en discute ensemble.
Je dis souvent, le catéchisme se résumerait à une chose très simple, dire aux enfants, vous savez, Dieu a créé la nature, a créé la terre, donc elle est d'émanation sacrée, et la polluer, la poisonner, c'est la désacraliser. Au lieu de cela, on a grisé par notre justement cette vanité finalement à vouloir transcender la nature et la dominer. Le fait est que la nature nous a donné des moyens, nous a offert des biens, et que ces biens, nous les retournons contre elle. Alors que moi, je pense que l'être humain, il est plutôt fait pour exalter la création.
Valérie Cabanès, il y a ça au fond, ce que vous dites aussi sur la domination finalement de l'homme et cette façon de s'être extrait du vivant.
Oui, alors si je peux être un petit peu contradictoire avec Pierre, il nous parle d'un catéchisme. Mm-hmm. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles nous nous percevons effectivement comme dominants. C'est parce que les religions monothéistes nous l'ont appris. Elles nous ont effectivement posé comme maître sur terre, pouvant dominer tout ce qui vit, tout ce qui rampe, tout ce qui vole. C'est un verset, 1:26 de la Genèse. C'est en tout cas une des interprétations. Donc,
c'est une émission sur les vivants et les dieux, hein, pour vous reciter un peu le contexte
mieux,
sur France Culture.
Hein. Mais je préfère effectivement, je comprends par contre cette notion de sacré, et je la comprends plus dans le langage, je dirais, des premiers peuples. Qui regardaient effectivement leur place sur Terre comme une place qui n'est que complémentaire, qui est la place d'un frère ou d'une sœur par rapport aux arbres, aux plantes ou aux animaux.
On en est loin, parce que nous, aujourd'hui, on se place au-dessus et au sommet de la pyramide du vivant, quand même. Hein.
Tout à fait. On se place au sommet d'un règne, le règne humain, au-dessus d'un règne qui est animal, puis d'un qui est végétal, puis d'un qui est minéral. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, en droit, de voir que ce règne existe aussi.
Ouais. Ça biaise complètement les rapports à la nature, selon vous, justement, cette domination autoproclamée de l'humain ?
En tout cas, ça nous permet de regarder la Terre comme un puits infini de ressources au lieu de la regarder comme une entité vivante. Mmh. Ça nous fait effectivement totalement oublier nos liens d'interdépendance, c'est-à-dire la nécessité que nous avons à nous percevoir comme un des éléments de systèmes complexes. Et si je revenais un petit peu à ce que Goethe disait au XIXe siècle, était aussi un naturaliste et un poète, et qui est un des premiers théoriciens des systèmes, nous avons oublié finalement que nous sommes dans un écosystème qui est un tout supérieur à la somme de ses parties, parce que l'écosystème terrestre est constitué de sous-systèmes et que nous sommes finalement qu'un des tout petits écosystèmes nécessaires à l'équilibre de l'ensemble.
Alors il y a ce message de Julien qui nous dit justement, si l'homme maltraite tant la nature, est-ce que ça n'est pas parce que les religions monothéistes ont fortement opposé l'homme, créature de Dieu, à la nature sauvage, refuge du malin, et cet antagonisme finalement est devenu au fil du temps une habitude des diverses sociétés ?
Oui, comme je l'expliquais, mais c'est aussi, et c'est peut-être une des raisons qui explique le désamour des Français vis-à-vis de la nature, c'est aussi à mon avis lié au siècle des Lumières, où nous avons cherché à nous extraire d'un état dit sauvage, d'un état naturel, et à considérer que le progrès technique était une manière d'affirmer une humanité plus accomplie.
Valérie Chansigaud, je vous vois réagir.
Oui, un petit
avec
peu.
Avec l'envie de prendre la parole.
Disons que ce que nous venons d'entendre, c'est une présentation assez classique d'une histoire qui serait l'histoire de l'Europe, de l'Occident, qui aurait perdu comme ça un lien qui est censé avoir existé, on ne sait pas trop ce que ça veut dire par ce lien, sous l'action à la fois des Lumières et de la religion chrétienne. D'ailleurs, l'un n'est pas forcément compatible avec l'autre, mais peu importe. Sauf que, quand on regarde dans le détail, on se rend compte qu'effectivement, la société qui s'établit à la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, et qui va se développer, en se modifiant d'ailleurs, c'est effectivement une société de domination, clairement. Pas d'ailleurs que de la nature, pas que des écosystèmes, un système de domination.
Donc là, vous êtes d'accord.
Qui n'existe d'ailleurs pas simplement qu'en Europe, parce que ce système de domination existe à peu près partout. Il y a des sociétés un tant soit peu structurées d'un point de vue hiérarchique. Mmh. Sauf que ce qui se passe également en Europe, c'est un mouvement qui débute aux Lumières et est nourri par les Lumières de réflexion sur les limites de l'action de l'homme sur son environnement et aussi sur les façons de contrôler cette action sur son environnement. Les premières sociétés de protection des animaux, les mouvements de protection de la nature, culture naissent non pas dans la société indienne, naissent pas plus dans la société chinoise, qui ne connaissent absolument pas ces mouvements, naissent dans la société occidentale. Or, les racines de ces mouvements, c'est encore une fois deux choses, encore une fois pas forcément compatibles, qui sont les Lumières et la société, je dirais, l'héritage
donc, qu'est-ce
chrétien.
Que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez nous dire finalement?
C'est que les sociétés sont complexes.
C'est ça, c'est très paradoxal ce que vous nous décrivez quand même.
C'est complexe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir une société de façon uniforme. Je comprends la portée du discours parce que c'est fort. On dit voilà en gros les méchants ils sont là et voilà ce qui s'est passé. Sauf que c'est très très compliqué. De même par exemple ce lien qu'on aurait perdu au vivant, on peut pas comprendre la construction de la mécanique de domination qui se fait dans notre histoire sans y intégrer l'obsession pour le vivant. On n'est pas coupé du vivant, on est obsédé par le vivant. Songez à ces mécanismes d'eugénisme social, de racisme social, d'amélioration des plantes. La plupart, enfin la quasi-totalité des races qu'on connaît au niveau des animaux domestiques ont été créées au XXe et au XIXe siècle, on ne remonte pas au-delà. On a une obsession pour le vivant. On n'est pas coupé du vivant, on est obsédé par un certain type de rapport qui est un rapport contradictoire, qui est à la fois de domination et de protection.
On passe la parole à la Défense, Valérie Cabanès.
Ah oui, non, c'est pas, je pense pas du tout qu'il y ait en soi opposition. Moi, je mène une réflexion aussi par rapport, et je sais pas ce que vous en pensez, ça m'intéresserait. Est-ce que c'est pas à partir du moment où finalement l'humanité s'est sédentarisée, à développer l'agriculture et s'est retrouvé dans une situation à avoir domestiqué.
Donc on revient au néolithique, hein, clairement.
Oui, domestiquer le vivant, que l'on est dans un... Parce que quand vous disiez nous avons commencé à chercher à protéger le vivant, oui, mais nous le faisons toujours dans une vision, et le droit est un reflet de notre niveau de conscience, dans une vision qui est anthropocentrée. C'est-à-dire que nous protégeons le vivant pour nous-mêmes, pour pouvoir survivre, et c'est tout le débat actuel, qui est que face à un effondrement écologique et de grands risques climatiques, on commence à se poser la question un petit peu partout sur la planète de est-ce que quelles sont les solutions pour protéger le vivant, et on se rend compte que nous avons cherché à protéger le vivant en morcelant des parcelles de nature et en protégeant, par exemple, des espèces menacées, une orchidée ou un oiseau, en protégeant une partie de l'Arctique. Mais on a perdu de vue, et c'est là où je trouve qu'on devrait s'adosser un peu plus à la science, justement ce fonctionnement systémique et ce que n'a pas perdu, c'est-à-dire une vision holistique du monde, les peuples premiers.
Voilà. Et ça, là, c'est ce que vous défendez comme
oui,
thèse.
Je crois vraiment que même le droit doit aujourd'hui évoluer vers cela.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion et vous répondez aux messages des auditeurs qui arrivent nombreux sur le site de La Tête au Carré.
carré.
En Alaska, c'est là que je veux aller. Me perdre au fin fond du pays. M'enfoncer dans la nature, sans personne autour. Je veux plus me faire chier avec les horaires. Surtout pas de montre, ni de carte, ni de hache, plus rien. Rien, je te dis, rien que moi, tout seul, au milieu des montagnes, avec les rivières, le ciel. Les animaux, je veux me perdre dans tout ça, être au cœur de la nature.
La vie sauvage.
Sauvage.
Une fois qu'on est perdu loin de tout, on fait quoi, dis-moi, on fait quoi
pas, moi, tu vis tout simplement, tu te contentes d'être là, de vivre le moment présent, de profiter de chaque seconde. Ouais. À mon retour, je pourrais peut-être écrire un livre sur mon expérience là-bas, mes voyages, ouais. Comment j'ai quitté cette société, tu vois, la société.
Voilà, extrait du film Into the Wild, sorti il y a 10 ans avec Sean Penn pour parler de nos liens à la nature avec Valérie Chansigo, historienne, et puis Valérie Cabanès, juriste en droit international. Et donc ces deux ouvrages, Valérie Cabanès, Homo Natura chez Buchet-Chastel, et Valérie Chansigo, Les Français et la Nature chez Actes Sud. Là, on entendait cet extrait. On a une vision très romantique, au fond, hein, de la perception de la nature.
Très délirante, moi je dirais, ouais. Plutôt, puisque le personnage va finir par mourir dans cet élan absolument magnifique et autodestructeur vis-à-vis d'une nature dans laquelle il n'est absolument pas ni intégré ni intégrable. Il faut voir que notre rapport à la nature se bâtit sur énormément de... J'irais un imaginaire assez riche qui nous masque en fait les réalités de la nature. C'est un peu le cas avec la vision d'un passé où on était en harmonie avec la nature. Sauf que quand on fait le bilan des espèces disparues, par exemple, que ça soit au niveau des gros animaux ou des oiseaux, l'essentiel des extinctions ont eu lieu bien avant 1492, se sont placées durant la préhistoire, lorsque l'être humain colonise pour la première fois il y a 12 000 ans l'Amérique. En Amérique du Sud, ça se traduit par l'extinction de 70 genres d'animaux de plus de 40 kilos. À Madagascar, c'est la totalité des mammifères de plus de 40 kilos qui disparaissent lorsque les êtres humains arrivent il y a 5 000 ans. Donc en fait, l'idée qu'on a connu un état en fait de stabilité parfaite et d'amour réciproque entre la nature et l'être humain repose sur ce type de construction, de vision assez fantasmée de la nature qui correspond à un besoin de se dire que le monde n'est ni terrible ni chaotique.
Sauf que Valérie Cabanès, on vit quand même une époque d'effondrement aussi de beaucoup de populations animales et végétales d'ailleurs aussi aujourd'hui quand même.
Oui, on est en train effectivement de rentrer dans une 6e extinction des espèces. On a perdu 58% des vertébrés, 80% de la biomasse des insectes en moins de 30 ans en Europe, 80% des forêts primaires en 30 ans aussi.
Avec une accélération du processus ?
C'est plus qu'une accélération, c'est un effet cascade. Mm-hmm. Et j'en reviens encore à cette vision écosystémique du monde où il faut bien comprendre que quand on déforeste une forêt, on s'attaque au climat. On s'attaque au climat parce que les forêts sont des éponges et gardent de l'eau. On s'attaque effectivement au climat parce que on perd une pompe à carbone. On s'attaque à la biodiversité parce qu'on perd un réservoir de biodiversité. C'est vraiment ce fonctionnement-là qu'il faut saisir. C'est d'ailleurs pour ça que j'invite les auditeurs à essayer de mieux connaître le principe des limites planétaires qui a été proposé par le Stockholm Resilience Center en 2009. C'est une équipe de chercheurs, de 22 chercheurs, qui ont donc proposé des limites concernant le changement climatique, concernant l'érosion de la biodiversité, concernant la modification des sols, l'acidification de l'océan, la quantité d'azote et de phosphore, par exemple. Et puis, il y en a 9 qui permettent de déterminer à partir de quel moment nous menaçons la stabilité de la Terre, en tout cas la vie telle que nous la connaissons depuis 11 700 ans.
Et nous sommes à quel moment aujourd'hui ?
Eh bien, sur ces 9 limites, nous en avons dépassé 4. Les plus fondamentales sont le climat et la biodiversité, et nous les avons dépassées. Et elles sont effectivement des limites qui rendent les autres limites de plus en plus fragiles. Voilà. Donc il y a une grande urgence à agir et peut-être même à proposer à ce que ces limites planétaires scientifiquement établies, reconnues par l'ONU, deviennent des sortes de normes juridiques, un peu comme le GIEC nous a proposé la limite de 350 particules par million de CO2 dans l'atmosphère.
Si et vous travaillez en ce sens.
C'est ce que vous défendez. Oui, absolument.
Valérie Chansigo, c'est quand même paradoxal tout ça, parce qu'effectivement, vous décrivez cette déconnexion du lien avec la nature, en particulier pour les Français, à un moment quand même où on a le sentiment d'en avoir jamais autant entendu parler. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on parle de climat, d'effet justement de la pollution sur les écosystèmes. C'est tous les jours maintenant.
C'est encore pire si on va à l'étranger.
On est très informé quand même.
C'est-à-dire que les Français, on peut estimer par rapport au bilan que je faisais tout à l'heure, qu'ils étaient relativement peu intéressés par la nature sauvage. Si on va en Angleterre, qui est le paradis des naturalistes, c'est là où il y a le plus grand nombre d'amoureux de la nature par kilomètre carré. C'est absolument indéniable, le nombre de structures, la moindre émission qui fait un tabac. Et pourtant, la biodiversité du Royaume-Uni n'est pas en meilleur état que la biodiversité française. Et là, ça oblige à se poser les questions sans doute autrement que les problèmes liés à la protection de la nature ne se trouvent pas dans la nature, mais se trouvent beaucoup plus, et uniquement d'ailleurs, dans les questions sociales et politiques.
Ouais. Alors justement, il y a Julien qui nous dit, alors que ce mot nature ou naturel n'a jamais fait autant vendre et donc rapporter, la réelle protection de la nature est régulièrement remise en cause. Il n'y a qu'à voir les coupes répétées dans les budgets des ministères de l'Environnement ou de nombreux conseils départementaux pour s'en persuader. Il est là le problème, par exemple ?
Non, il n'est pas là. Il est pire que ça. C'est-à-dire, il s'agit de savoir si on est capable de réfléchir aux mécanismes sociaux qui conduisent à la destruction de la nature. Je vais prendre un exemple précis. 1945, commercialisation du premier pesticide moderne, le DDT, ouais, contre lequel Rachel Carson va écrire. 1970, son interdiction. Depuis cette date, on n'a jamais accumulé autant de traités, de conventions, de règlements, y compris internationaux, locaux, etc.
Et pourtant, on a du glyphosate aujourd'hui, par exemple.
Et pourtant, on a toujours le problème des pesticides. Lorsque le glyphosate sera interdit, parce qu'il finira par être interdit, il y aura autre chose à sa place.
Mais il y a déjà d'autres choses, d'ailleurs.
Il y a déjà d'autres choses et qui risquent d'être pires que le glyphosate. Le problème, c'est pas la molécule chimique qu'on va interdire qui pose problème. C'est l'utilisation sociale de cette molécule chimique. Si le DDT n'avait pas été utilisé d'une façon aussi aberrante qu'il l'a été, il aurait sans doute eu une vie beaucoup plus longue et beaucoup plus enrichissante pour l'humanité. Simplement, il y a des mécanismes sociaux que l'on ne veut pas voir parce que ça repose sur des questions qui fâchent. Et le problème, c'est que d'interdire successivement, par exemple, les molécules les unes après les autres, fait perdurer le problème sans le régler jamais.
Ouais. Valérie Cabanès, là-dessus.
Alors là, j'en aurai pour 2 heures, mais je vais essayer.
Et vous avez 2 minutes devant vous, voyez, c'est
voilà,
terrible.
Donc je vais essayer de à vous peine. Le résumer, et ça va être un petit peu, peut-être cinglant. Vous l'avez dit vous-même, on parle d'un ministère de l'environnement. Même les écologistes parlent d'environnement et pas de nature. Donc il y a effectivement ce côté romantique de la vision de la nature des Français, mais il y a effectivement en politique une vision encore donc qui sépare l'homme de la nature, puisque l'environnement, c'est ce qui nous environne et ne nous inclut pas. Donc ça, déjà, sur un plan, je dirais, presque épistémologique, sémantique, il y a un problème. Ensuite, pour moi, il y a plusieurs problématiques qui sont en lien avec la notion de l'État, et en particulier de l'État-nation. Le premier, c'est que si des traités internationaux n'arrivent pas à être contraignants, c'est parce que la souveraineté nationale reste le pivot central du droit international, et qu'aujourd'hui, face à des menaces qui nous touche absolument tous sur Terre. Il n'est pas normal qu'un Donald Trump puisse sortir de l'accord de Paris sans craindre une justice internationale parce que sa décision va avoir un impact sur l'humanité tout entière. Donc, je pense qu'il serait temps de remettre en question la souveraineté nationale de façon systématique. Le deuxième niveau, pour moi, qui est important, c'est en lien avec l'idée qu'il faudrait que l'on puisse se réapproprier une démocratie beaucoup plus locale et une gouvernance décentralisée locale qui nous permette justement de remettre du lien entre nous et avec les écosystèmes dans lesquels on vit et d'inscrire dans nos actions quotidiennes ce lien d'interdépendance.
Il y a beaucoup de réactions des auditeurs là-dessus, hein, des messages en particulier à l'école.
Et puis le dernier, et là ça va être effectivement un petit peu le pavé dans la mare, c'est la notion de propriété privée. Si on acceptait d'avoir une relation à la nature où on la regarde comme un territoire dont nous pourrions être usufruitiers et non pas possesseurs, alors cela changerait considérablement la manière dont nous gérerions les écosystèmes.
Donc terminer la propriété privée, justement ?
Je pense à une société qui met en avant effectivement des systèmes plutôt d'usufruit des territoires.
Une sorte de collectivisme ?
Non, ce n'est ni du socialisme ni du libéralisme. C'est véritablement l'idée que on réapprenne à vivre selon une économie locale et une agriculture locale et des terres qui soient mises à disposition de familles ou de petits agriculteurs qui puissent garantir une souveraineté alimentaire dans les territoires.
On poursuit la discussion ensemble dans un instant et des messages bien sûr sur franceinter.fr.
Punaise, résumé ça en 4 minutes.
la douleur aujourd'hui, la mort, la maladie, le corps et la mémoire, l'abandon et l'espoir. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Tu dis l'amour, l'ami, y en a encore ou plus, on a encore envie, on se plaît, on sait plus. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Seulement, parfois dans ma tête, tu vois, il n'y a que de l'eau, une poignée d'eau salée, une poignée d'eau rouillée. Mago, économie, le don, le dû, le débit, trop de tout ou trop peu, c'est ni moins bien ni mieux. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Tu dis l'empire, la réussite, le succès, le mérite, monter dans l'ascenseur, tu avances ou tu meurs. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Seulement, parfois dans ma tête, tu vois, il n'y a que de l'eau, une poignée d'eau salée, une poignée d'eau. La peur, la solitude, le tourbillon, la poisse, les frissons de l'angoisse. Tu dis tout ça, c'est dans la tête, c'est dans la tête, tu crois.
Et dans la tête, c'est Alban de la Simone.
Je bois à la mère nature, aux collines odorantes, je bois aux cigales, à la brise, aux roches millénaires.
La tête au carré sur France Inter.
Un peu de Jean de Florette avec Gérard Depardieu pour nous parler de nature, comme avec Valérie Chansigo et Valérie Cabanès, et vos messages qui arrivent. Caroline nous dit que quand les animaux n'étaient pas interdits à l'école, les enfants avaient un lien avec les cochons d'Inde, les hamsters, les lapins qui vivaient. Ils pouvaient les emmener à tour de rôle chez eux au nom des allergies, de l'hygiène, de la sécurité des animaux. Ils n'ont hélas plus de place à l'école et privent les enfants d'un rapport très sain au monde animal. Valérie Chansigo, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne façon de se reconnecter à la nature? Ça, par exemple, un exemple parmi tant d'autres.
Est-ce que c'est une relation saine des animaux avec les enfants? Ça, après, on peut se demander en posant la question de la souffrance animale. Est-ce qu'un animal a pour vocation d'être emprunté comme un livre dans une bibliothèque? C'est des questions qui se posent aujourd'hui et c'est très compliqué pour y répondre.
Donc c'est une façon de dire que c'est pas vraiment une solution.
Non.
Pour se reconnecter, clairement.
Non. Ouais. Clairement non.
Valérie Cabanès.
Oui, ça montre bien en fait que notre rapport aux animaux est un rapport de domesticité et que l'on a perdu ce contact avec l'animal sauvage. Donc oui, moi j'inviterais plutôt à partir en forêt et aller
éventuellement en forêt. C'est-à-dire la consommation de la nature est aussi une façon de détruire la nature. C'est-à-dire on n'imagine pas qu'on va transporter des millions de personnes dans la nature pour leur faire admirer une nature sauvage, parce que cette nature sauvage disparaîtrait absolument immédiatement. Donc il y a aussi...
On va où avec vous, Valérie Chansigo? Alors dites-nous, parce que vous êtes très radical quand même. Vous allez où?
Dans sa cour.
Non, mais
dans sa rue, pour regarder ce qui s'y passe.
On peut aller quand
même
dans la forêt, tout en respectant la forêt, non?
Oui, ça dépend comment ça se passe, ça dépend les volumes de personnes qui vont dans cette forêt. Ça fait très très longtemps qu'on réfléchit effectivement à ce tourisme autodestructeur, parce que c'est une formulation qui consiste à emmener des gens dans des endroits absolument magnifiques pour leur montrer ces endroits magnifiques, et ces endroits magnifiques ne deviennent plus magnifiques parce qu'ils sont en fait totalement dégradés par la fréquentation.
Ouais. On va écouter un reportage justement de parisiens, d'urbains en tous les cas, qui vont faire des stages stage autour des plantes pour aller respirer un petit peu l'air pur.
Leurs vacances, ils ont choisi de les passer les pieds dans la boue plutôt que sur les plages de sable fin. Élise et Julien Domalin vivent à Paris. Cet été, ils redécouvrent la nature.
On est habitué à la Tour Eiffel, ça a quand même plus de classe ici, je trouve.
Comme eux, ces touristes venus de toute la France suivent un stage de plantes culinaires au Grand Bornand.
On va voir la reine des prés qu'elle a.
Reine des prés, oxalis ou aquilée millefeuille. Pour les distinguer des mauvaises herbes, tous les sens sont mis à contribution.
Un parfum d'arbre-brume, ça sent boisé aussi.
S'échapper de la ville. Revenir à des saveurs authentiques, c'est justement ce qui attire ce cadre en entreprise.
À la ville, on a tout ce qui est lyophilisé, on va dans le supermarché, on achète un petit peu tout et n'importe quoi. Là, la nature, elle nous permet de nous faire réfléchir et nous dire que finalement, tous ces produits viennent de cette nature et qu'il faut justement la préserver.
Voilà, extrait d'un reportage sur France 2, c'était dans le 13h en 2016, et je sens qu'on a énervé Valérie Chansigaud. C'est exactement l'exemple qu'il fallait vous trouver, celui-là.
Non, c'est pas ça, mais c'est un bel exemple de l'urbaphobie galopante et passablement un petit peu folle qui existe, qui consiste à dire la ville, c'est horrible, allons massivement dans cette nature, ce qui fait que ça contribue, c'est pas la seule cause, mais ça contribue à l'étalement urbain, avec tous ces phénomènes d'addiction à l'automobile et au pétrole. Et encore une fois, c'est un mécanisme hautement destructeur des écosystèmes par l'artificialisation des sols. Et d'autant plus que la ville est le centre, l'épicentre du projet démocratique. C'est-à-dire, c'est dans les villes que la démocratie globalement est née et s'est développée, s'est épanouie. Donc, il faudrait arrêter un jour de croire que les villes contribuent à la destruction de la nature sauvage, parce que l'avenir de la nature sauvage passe par les villes.
Bon, en tout cas, c'est pas à vous que je vais proposer d'aller ramasser des champignons en forêt, dites-donc. Valérie Cabanès, alors qu'est-ce qu'on fait exactement? On agit sur des leviers politiques?
Oui, enfin, déjà pour rebondir sur cela,
et juridique,
moi qui vis effectivement dans la nature et qui discute avec des personnes qui...
C'est où votre nature à vous alors?
Là je suis en Dordogne.
D'accord.
Mais je dirais au contraire qu'on pourrait encourager par cette reconnexion à la nature l'envie de la régénérer. Aujourd'hui, en fait, ce dont on aurait besoin, c'est vraiment que le monde redevienne une grande forêt. Donc il ne s'agit pas de préserver les petits bouts qui restent, il s'agirait au contraire de l'agrandir, et puis de voir aussi qu'il y a de plus en plus...
Mais pour que tout le monde vive dans la forêt ?
Vous savez,
ce serait ça le modèle idéal pour vous ?
C'est pas que tout le monde vive dans la forêt, mais effectivement, il y a de plus en plus de propositions, par exemple, de sylviculture interstitielle, c'est-à-dire de cultiver au sein de la forêt, comme le font déjà certains peuples depuis des millénaires. Et puis, je vois aussi beaucoup d'urbains qui, au contact de la nature, décident de quitter les villes, et pas de créer un étalement urbain de villes dortoirs, mais de se remettre les mains dans la terre. J'ai des témoignages extraordinaires de la ferme de Sainte-Marthe, de Philippe Desbrosses, de Vandana Shiva, où j'ai rencontré des personnes qui ont quitté des postes d'ingénieurs, des postes de pilote d'Air France, de businessmen, et qui ont décidé de complètement changer de mode de vie. Et ça fait partie, à mon avis, des évolutions de la société qui sont intéressantes.
Après, il y a des exemples aussi à l'international qui sont intéressants aussi, hein, sur la jurisprudence, précisément aux États-Unis. Je crois qu'il y a des municipalités qui attribuent des droits à la nature, voilà. C'est reconnu
et
comme
donc
tel.
Et donc après, sur un autre niveau, donc ça c'est un niveau local, mais sur un niveau plus universel, je pense qu'aujourd'hui il est important que l'on reconnaisse que les droits fondamentaux humains ne pourront pas être garantis à l'avenir si nous ne reconnaissons pas les droits de la nature. Et c'est un mouvement qui est exponentiel, qui effectivement a émergé dans des pays de sociétés multiethniques comme l'Équateur, la Bolivie, mais qui aujourd'hui touche des pays occidentaux. Ouais. 34 municipalités aujourd'hui aux États-Unis reconnaissent les droits de la nature. La Nouvelle-Zélande a accepté de négocier avec le peuple maori le fait que les maoris puissent devenir gardiens d'entités vivantes reconnues personnalités juridiques comme une rivière et un parc. Même en France, sur un territoire de souveraineté française, dans les îles Loyauté, les Kanaks viennent de décider que le principe unitaire de vie serait un des articles de leur code de l'environnement. Des exemples comme ça, il y en a de plus en plus, il y en a plein dans le monde, il y en a plein dans mon livre. Ouais. Mais c'est pour moi une source de grand espoir parce que cela montre qu'il y a une évolution des consciences à ce sujet-là.
Valérie Chansigaud, pour conclure, quel est votre point de vue sur cette question? Il faut d'abord agir sur le politique, sur le juridique, sur cette question-là?
Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas deux problèmes, le problème de la nature ou les problèmes sociaux, il n'y a qu'un seul et même problème. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et ça remonte à une vieille tradition de pensée qui date des Lumières, qui consistait à considérer que la cruauté faite aux animaux, n'est pas distincte de la cruauté faite aux êtres humains, c'était la même forme et que l'un nourrissait l'autre. Un enfant, par exemple, cruel vis-à-vis des animaux, allait devenir forcément un adulte criminel. Mmh. Et cette idée de cette homogénéité, de cette identité entre les deux formes d'exploitation de la nature et de l'être humain, c'est encore une fois une idée très très ancienne, très forte et très récurrente de notre culture. Il s'agit simplement de retrouver trace et de se réapproprier cette tradition.
Christian nous dit, notre nature en France est une nature créée par l'homme, à l'exemple de la Camargue. Il faudrait revenir un peu aux réalités, arrêter de tenir des discours ésotériques sur une nature bonne et généreuse qui n'a jamais existé. Un passé en harmonie avec la nature, c'est une contre-vérité évidente. Vous partagez tout à fait ce message.
Et là, il faut bien comprendre que la nature sauvage, d'ailleurs à peu près partout sur Terre, est une création de l'homme.
Et qu'il existe très peu d'endroits où l'homme n'est jamais allé. Hein. On n'en trouve quasiment plus, en tout cas, le pôle sud, aujourd'hui. Oui,
et encore, puisqu'il y a introduit certaines maladies.
Absolument. Valérie Chansigaud, ça s'appelle « Les Français et la nature, pourquoi si peu d'amour ?» C'est aux éditions Actes Sud, dans la collection « Monde sauvage pour une nouvelle alliance ». Et puis Valérie Cabanès, vous signez-vous « Homo Natura », en harmonie avec le vivant, collection « Dans le vif » aux éditions Buchet-Chastel. Merci à toutes les deux d'être venues nous en parler.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Encore un pavé dans la mare du dépistage du cancer du sein aujourd'hui.
Oui, et même deux et genre parpaing. Je ne voudrais pas que nos auditrices d'ailleurs s'imaginent que je mène un combat personnel contre la mammographie de dépistage. Je me contente de rapporter les éléments scientifiques récents qui éclairent la polémique autour de cette pratique controversée. Alors il y a deux mois, je vous ai parlé d'une étude qui montrait que le dépistage augmentait le nombre d'ablations du sein pratiquées en France au lieu de le faire diminuer. C'était l'occasion de rappeler que le comité de pilotage de la concertation citoyenne organisée par Marisol Touraine avait conclu à la nécessité de repenser le dépistage organisé, mais surtout d'informer les femmes sur les risques encourus face aux modestes bénéfices attendus.
Alors quoi de neuf ?
Eh bien Mathieu, ces deux études récentes confirment ces inquiétudes. Alors la première vient d'être publiée dans le British Medical Journal par l'équipe lyonnaise du professeur Routier. Il s'agit d'une évaluation de l'impact du dépistage mammographique aux Pays-Bas qui est pratiqué par 80% des Hollandaises, 50% en France. Les données ne soutiennent pas l'idée pourtant répandue d'une diminution significative de la mortalité par cancer du sein. Mais surtout, elle confirme l'existence d'un surdiagnostic important. Alors, en effet, le nombre de cancers avancés, graves, n'a pas diminué depuis 1989, alors que celui des petits cancers localisés a plus que doublé. Alors ça, c'est typique de l'impact d'un dépistage problématique. On découvre, et puis surtout on traite lourdement, des lésions cancéreuses qui n'auraient jamais évolué. C'est le surtraitement, et cette étude montre qu'il concerne une femme sur deux traitée pour un cancer du sein dépisté.
Une femme sur deux, c'est ce que vous dites là?
Ben oui, et bien c'est-à-dire que parmi les femmes traitées, après découverte d'une lésion cancéreuse suite au dépistage, et donc en l'absence de symptômes, attention, une sur deux n'en aurait jamais souffert de son vivant et aurait pu éviter l'ablation d'un sein ou une radiothérapie éprouvante.
Ça paraît incroyable, non ?
Oui, oui, bien sûr, et pourtant c'est pas nouveau. Mais c'est là qu'intervient la deuxième publication qui vient elle aussi de sortir, alors cette fois sur Biomède Central. Elle concerne des autopsies réalisées sur des seins de femmes décédées d'une maladie sans rapport avec le cancer du sein. En compilant les données publiées, une équipe australienne a montré que les seins de 2 femmes sur 10 portaient des lésions cancéreuses ou atypiques qui auraient conduit à un traitement si ces lésions avaient été découvertes de leur vivant. Et en comparant ces chiffres avec les statistiques des cancers du sein, les chercheurs concluent aussi à un risque de surtraitement de l'ordre de 50%. C'est une confirmation du surdiagnostic associé au dépistage mammographique. On met en évidence des lésions qu'on aurait mieux fait d'ignorer.
Question évidemment que se posent probablement toutes celles qui nous écoutent. On fait quoi en pratique,
Dominique ? Eh bien, on informe les femmes, comme le recommandait le rapport de la concertation citoyenne. Vous savez, cette fameuse transparence si difficile à obtenir en France. Alors, il ne s'agit pas du tout d'arrêter les mammographies de dépistage, mais simplement de dire clairement que pour une femme sauvée par le dépistage, 16 seront traitées à tort. Et donc, à chaque femme, d'en parler avec son médecin et d'en parler et d'en discuter.
Pour évaluer, effectivement.
Pour savoir si ça l'intéresse.
Et s'il faut le faire ou pas.
Voilà.
Merci beaucoup Dominique. Santé polémique, cette chronique est à réécouter évidemment comme chaque semaine sur le site de la Tête au Carré sur franceinter.fr. Et à jeudi. C'est terminé pour notre Tête au Carré. Merci à Patrick Henry et Elise Christophe qui étaient à la technique. Demain, ce sera Le Club qui sera présenté par Daniel Fivet.